Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 886 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec une femme formidable, Aurore Monod de Villars, une appellation en nom poétique, moulin à vent, un catalan génial, c'est presque un pléonasme, hein, Laurent Barreda, le président du GICB, puis un zoom sur les coteaux du Lyonnais. Ils sont là, les trois. Florence Corbalan, bonjour Florence.
Bonjour Alain.
Et puis Philippe Orbach et David Cobol, bonjour à tous les deux.
Et bonjour, tout
pour
seul.
Pour commencer cette émission, vous avez une très jolie cravate, David. C'est la radio, vous avez quand même une très jolie cravate. Invino, ouais. Sud Radio vous retrouve, vous qui avez cofondé l'Académie des vins et spiritueux, pour le Vino Quiz.
Et oui, alors je rappelle le principe, on vous pose une question, vous répondez à la question. Et si vous êtes tiré parmi les très bonnes réponses, parce que je sais que vous êtes brillant, vous gagnez, qu'est-ce que vous gagnez? Eh bien, le prochain numéro du magazine Planète Vins et spiritueux.
Très sympa.
Vous en avez de la chance. Alors, la question de la semaine dernière, je vous le rappelle, fut: quel événement était organisé par Terre de Vin ce week-end? Là, c'est en cours. Réponse A, Bali Tasting. Réponse B, Bordeaux Tasting. Réponse C, Perpignan Tasting.
Et la réponse
J'ai dû hésiter parce que je dis quand même Bali Tasting, ouais, c'est peu probable. Mais bon. La bonne réponse est évidemment la réponse B, Bordeaux Tasting.
Alors cette semaine, David.
Maintenant, nouvelle question. Ce week-end, comment se nomme l'appellation que Philippe Forbrack présente ce samedi? Donc il faut écouter l'émission, hein, a priori. Réponse A, éolienne. Réponse 2, moulin à poivre. Réponse C, moulin à vent.
Oui, alors cette question, elle est bien pour là, mais voilà, ce week-end, quoi, très bien.
Alors, pour répondre et gagner le prochain numéro de ce dit magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site Invino Radio TV.
Moulin à poivre, c'est pas mal, David.
Pas moulin à poivre, c'est intéressant.
C'est pas idiot.
Ça donne un peu de piquant, c'est peut-être un peu Syrah du Côte-du-Rhône du Nord.
Oui, très bien. Alors, merci David, en tout cas, Invino Sud Radio. Retrouve Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, pour accueillir cette femme formidable, on en parle tout à l'heure, là, Aurore Monod de Villars. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Alors vous êtes plutôt quoi? Vous êtes plutôt Bourgogne ou Jura dans votre cœur?
De cœur, je suis très bourguignonne. Hein. Je suis née en Bourgogne, j'ai grandi en Bourgogne et je suis adoptée dans le Jura. Enfin, j'essaye de me faire adopter, voilà, récemment par les Jurassiens.
Florence?
On va revenir aux origines pour le peu de personnes qui vous connaissent, qui ne vous connaissent pas, pardon. Après une première vie dans l'univers du luxe, vous quittez la vie parisienne et vous vous posez la vraie question, à savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et vous décidez de poursuivre l'aventure familiale et de perpétuer la grande histoire du château de Chamiré en Bourgogne. Ça commence par la reprise des études à l'université de Dijon. Alors en quelques mots, hein, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ce château de Chamiré qui date du XVIIe siècle ?
Oui, alors château de Chamiré, donc c'est une propriété que mes grands-parents ont reçue lors d'un déjeuner dominical, au cours duquel mes arrière-grands-parents leur ont donné les clés en leur disant, écoutez, voilà, on vous a dégoté cet endroit absolument ravissant. Il y avait à l'époque quelques hectares de vignes. Voici les clés, amusez-vous bien et joie bonheur. Et quelques années plus tard, donc ça c'était en 1932, et quelques années plus tard, le domaine fait 37 hectares. Et surtout, un tiers est planté en blanc, ce qui est assez atypique à Mercuré, où l'appellation est plantée
en rouge,
quasi 95% en pinot noir.
Eh oui.
Et ensuite, vous voilà petit à petit à la tête, avec votre père et votre frère, des domaines de Villars.
Amaury, on l'embrasse.
Avec le château de Chamiré et de 4 autres domaines, lesquels ?
Le domaine des Perdrix, qui est un domaine que mes parents ont repris en 96. En fait, on a eu un passé négociant, aujourd'hui, dont je ne vais pas parler, puisqu'on a une casquette uniquement producteur maintenant. Mais après notre petit intermède négoce, en fait, mes parents ont eu la brillante idée de reprendre le domaine des Perdrix en 96, donc en Côte de Nuit, 15 hectares. Sur les plus beaux terroirs des appellations Nuit-Saint-Georges, Vaune-Romanée, etc. Ensuite est arrivé dans l'aventure un petit domaine qui est un de mes domaines chouchous, parce que comme tout ce qui est petit, c'est toujours beaucoup plus mignon. Le domaine de la Ferté, qui fait 6 hectares à Givry, en village et en serre voisine, et avec une nouvelle parcelle qui s'appelle le Clos de Mortière. Et puis, dans l'aventure, est arrivé aussi plus récemment le domaine de la Garenne, qui, pour le coup, ne nous appartient pas, mais appartient à la belle famille de mon frère, la famille Beaumont, et sur lequel on s'occupe de tout, de A à Z.
Ça reste en famille, tout ça,
voilà,
quand même.
C'est toujours une affaire de famille. Et puis, plus récemment, on a traversé la Saône, effectivement, il y a 18 mois, pour aller dans le Jura, à Arbois.
Et vous ne vous arrêtez pas là. En mai 2018, avec votre frère, vous sortez effectivement de votre zone de confort pour aller dans le Jura, comme vous le dites. Alors pourquoi le Jura? Pourquoi le domaine Rollet?
Pourquoi le Jura? Le Jura, ce n'était pas forcément une évidence au début. Mon frère et moi, donc Amaury, dont Alain a parlé tout à l'heure, avec qui on travaille main dans la main, on avait envie, je pense, de créer quelque chose qui corresponde peut-être plus à notre génération, enfin, qui soit un peu l'empreinte de notre génération, parce que nous sommes des héritiers, entre guillemets, mais des héritiers travailleurs, on va dire. On n'attend pas que les choses se passent sans rien faire. Et donc, on avait envie de transmettre aussi à nos enfants quelque chose qui soit l'empreinte de notre génération. Donc, on se creusait un peu la tête. Bon, la Bourgogne est assez vite sortie du champ
de tir. Et c'est hors de prix, en plus.
Parce que la Bourgogne...
Il n'y a rien à vendre et c'est hors de prix.
Il n'y a pas grand-chose à vendre. Il y a un peu à vendre, mais c'est très, très, très cher. Donc, aujourd'hui, c'est inaccessible aux Bourguignons. On avait pensé à des contrées un peu plus lointaines. Et puis, un jour, le dossier du domaine Rollet est arrivé sur notre bureau. Bon, on s'est dit, on va aller voir. C'est à 1h15 de chez nous. Arbois est à 1h15 de Mercurey.
Loin, quoi, ouais.
C'est pas très loin. Il faut traverser la Saône. Bon, allons-y. Et là, on est tombé amoureux des terroirs. Moi, les vins du Jura, je connaissais assez peu. Enfin, je connaissais les grands noms du Jura qu'on connaît tous. Mais c'est vrai que, malgré le fait que j'ai grandi tout près, finalement, c'était pas un vignoble auquel je m'étais
David
énormément
Cabal.
Intéressé.
Et moi, j'ai une très haute opinion des vins de Rollet depuis très longtemps. J'en ai vendu il y a 35 ans, quand j'étais caviste. Et ça continue à sortir pour moi dans chaque dégustation que je fais.
Dans toutes les couleurs, David ?
Oui, dans tous les styles. Aussi bien, alors, les rouges du Jura, ce n'est pas vraiment mon truc, mais les blancs sont magnifiques. Et pas que du vin jaune. On parle beaucoup de vin jaune, mais il y a des blancs secs absolument splendides dans le Jura. Je pense que c'est une très bonne acquisition.
Bien, merci David. Mais je pense que vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle Jura, pour beaucoup de personnes, en fait, on pense vin jaune ou vin de paille.
Oui, c'est vrai.
Aussi.
Oui, c'est vrai.
Or que c'est absolument mineur.
Et voilà, c'est assez mineur. Et, et on fait des très grands vins blancs dans le Jura. Et
il y a quelques bons rouges aussi. Attention, l'autre jour, on a goûté un pinot noir qui était vraiment de bonne facture.
Il y a des rouges buvables.
Non, moi, ce que je préfère à la limite dans le Jura, ce sont les cépages autochtones.
Bon, pour terminer, Florence.
Alors, votre aventure a commencé il y a 18 mois. Alors, qu'est-ce qui s'est fait depuis?
En 18 mois, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Tout d'abord, une vraie cartographie du vignoble, puisqu'un bon vigneron doit connaître ses parcelles sur le bout des doigts. Donc ça, c'était nécessaire. On ne connaissait pas les vignes et aujourd'hui, on est capable de les identifier parfaitement. Des sélections massales qui nous semblent correspondre exactement à la bonne parcelle. On a pas mal replanté aussi. Élimination des intrants. Enfin bon, on est en train de prendre un virage.
Un vrai beau chantier, n'est-ce pas, Aurore? On vous invitera pour suivre de près la nouvelle aventure de ce beau domaine Rollet. Merci beaucoup, Florence. Merci également à vous, Aurore.
Merci.
Philippe Orbach, une vidéo sur Radio vous attend. Vous qui êtes un peu le Don Quichotte de Bacchus aujourd'hui.
On va dire ça, oui. Moulin à vent, où es-tu? Voilà, pas loin finalement de...
On reste en famille, là.
Exactement, on est dans le sud de la Bourgogne, pas très loin finalement de ce que l'on vient d'évoquer avec Aurore de Villars. Le Moulin à vent, c'est la plus ancienne des appellations du Beaujolais. C'est vrai que c'est un peu la référence, et c'est la seule qui n'a pas d'ailleurs, qui n'a pas de commune qui s'appelle Moulin-Vent. Toutes les autres s'appellent Fleury, Morgon, Genas, c'est des communes. Là, c'est juste Moulin-Vent.
Par contre, il y a un moulin.
Par contre, il y a un moulin.
Il y a un peu de vent.
Il y a du vent, parce que, comme toujours, les moulins sont au-dessus de la butte. Et c'est à cheval sur deux communes, Romanage-Torin, qui est sûrement la plus célèbre, et Genas, qui est également célèbre, puisqu'elle produit également du Moulin-Vent et du Genas, qui est un autre cru également. Alors, ce sont uniquement des vins rouges, élaborés à partir du Gamay noir, à jus blanc, qui est il y a eu beaucoup de force et de finesse, c'est un peu la puissance et l'élégance en même temps, le moulin à vent. Apte à la garde, hein. Moi j'ai été bluffé souvent par des vieux millésimes de moulin à vent que franchement, on m'aurait dit que c'était un grand cru de pinot noir.
Aurore, vous n'avez pas été tenté par le Beaujolais aussi pour investir?
Si, on y avait pensé, bien sûr, mais c'est devenu assez cher aussi. Hein.
Ah oui, c'est vrai, c'est des prix en montée. Quoi, ouais.
Voilà, sur du sol granitique, c'est spécifique effectivement de ce que l'on a. Et sur moulin à vent, on a des sols de granit décomposés qu'on appelle des gores, G-O-R-E. Donc c'est pas très.
Ça fait film de seconde zone.
C'est sur ces sols historiques que l'on produit effectivement ces vins qui sont à la fois puissants,
ils sont très très rouges,
élégants. Alors le rouge est plutôt dans la couleur du vin, hein, plutôt même violacé quand ils sont jeunes. Et globalement, ce sont quand même des moulins à vent. Les moulins à vent gardent beaucoup de couleurs avec le temps. C'est un peu la spécificité du cru. Au niveau aromatique, on a souvent des arômes de cerise, de violette. Il y a une mixité entre le fruit et le floral qui est magnifique. Et puis, il y a beaucoup de vignerons moulins à vent qui font des élevages un peu à la bourguignonne, donc avec un travail sous bois, ce qui permet non seulement d'apporter de l'oxygénation, du boisé délicat, mais leur donner également cette structure qui leur permet d'être des grands vins de garde. Parmi les coups de cœur, j'ai récemment dégusté les vins d'un nouveau domaine qui s'appelle Le Nid.
Le Nid.
Exactement, qui a été un domaine familial et qui, de son nom, la volonté des parents de créer une union autour d'un projet.
Oh, c'est mignon,
ça. Ça a plutôt bien marché, puisque les enfants
ont pris leur envol,
ils sont venus dans le Nid, c'était génial. Et donc, il y a deux frères et une sœur qui se sont associés, chacun se répartit un petit peu les fonctions. J'ai goûté la cuvée Rochegrès dans le millésime 2015, et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait cette puissance et ce côté velouté qui était...
C'est une belle année 2015.
Exactement. Parmi les autres domaines emblématiques, le Nid, c'est un peu une nouveauté, mais parmi les domaines qu'il ne faut pas oublier, le château du Moulavant, qui appartient à la famille Périnet depuis 2009, qui est un peu le domaine phare, s'appelle le château Moulavant, c'est quand même génial. Ils ont une collection de sol et de sous-sol un peu particulière, ce qui permet d'avoir des cuvées parcellaires qui sont très intéressantes. C'est un des très bons domaines de l'appellation. On ne peut pas ne pas citer le château des Jacques, parce que c'est la famille Jadot qui investit, la maison Jadot qui investit depuis 1996, c'est pas hier, hein, sur cette appellation, avec effectivement de très jolies cuvées. Je pense à La Rochelle, que j'ai goûté il n'y a pas longtemps, toujours dans le millésime 2015, qui est vraiment... c'est le début, j'allais dire, du début, parce qu'il faut l'attendre encore un peu, 2015. Ah oui. Alors qu'on peut imaginer les vins du Beaujolais à boire un peu plus tard, mais franchement, 10 ans, 15 ans, ça ne prend pas...
David, vous voulez dire quelque chose ?
Non, juste une bêtise. Est-ce que tu as trouvé dans tes recherches une lance qui traînait par là ?
La lance, pourquoi ?
Bah, la lance de Don Quichotte qui se battait contre les moulins. Avec
oui, c'était la blague d'il y a 10 minutes.
C'est vrai.
Alors, pour terminer, sur cette jolie métaphore de la part de David, le domaine La Bruyère, on pourrait peut-être retrouver aussi des choses à dire, qui est aussi une grande famille, Dominique Piron ou encore le domaine des Terres Dorées, qui font partie vraiment de la belle qualité dans l'appellation.
Merci beaucoup Philippe Arbouac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un vrai catalan, un vrai Laurent Carreda, le président du GICB à Banyuls-sur-Mer.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour chez le caviste Nicolas Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Laurent Barreda. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors, vous êtes le président du GICB. Qu'est-ce que c'est exactement ça ?
Alors, le GICB, c'est le groupement interprofessionnel du Cru Banyuls.
Du Cru Banyuls. Alors, vous êtes né à Perpignan en 1967 et en parallèle du vin, vous avez plein de vie, hein, en passant de Dassault électronique au CHP de Perpignan.
C'est ça. Au départ, j'étais électronicien, donc j'ai fait toute ma formation en BTS électronique. Puis, moi, j'avais dit, comme tous les jeunes de la côte, moi, la vigne, j'irai jamais. Je suis parti pour découvrir le monde, découvrir Paris surtout. J'étais chez Dassault, j'ai passé une carrière, enfin j'ai passé 3 ans plutôt, c'était pas une carrière, mais en tous les cas des moments formidables au niveau électronique. Et puis après, le mal du pays, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait ?
On revient dans le sud quoi.
On revient.
Alors racontez-nous, les vignes, vous avez des vignes à titre personnel, c'est vous qui les avez achetées, c'est votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, ça monte à quand ?
Alors c'est mon arrière-grand-père qui est parti d'Espagne juste avant la retirade, et mon grand-père a commencé à prendre une parcelle, 2 parcelles, 10 parcelles, et on est arrivé jusqu'à 6 hectares, et aujourd'hui, avec mon père, nous cultivons 4 hectares.
4 hectares, alors, vous êtes basé donc à Banyuls, hein, sur les crus Banyuls et Collioure, hein, vous êtes quand même quasiment dans le plus bel endroit du monde, alors, tous ceux qui nous écoutent vont dire rien à d'autre, mais c'est quand même magnifique Banyuls et Collioure.
Ah, c'est vrai, c'est magnifique, c'est les montagnes qui se jettent dans la mer, c'est du vert, c'est du bleu, c'est du soleil.
Oui, puis les neiges sont pas très loin quand même, hein.
Les neiges sont... Hein,
avec les jolies montagnes, quoi.
Il fait quand même relativement bon. Le climat est prospère à la vigne et au vin.
Et alors, au sein donc du GICB, qui est un acteur important du cru, hein, ça représente en termes de pourcentage de vignes et de production ?
Ça représente 60 à 70% du terroir Collioure Banyuls.
Donc c'est énorme, quoi. Et vous produisez à la fois des Banyuls et des Collioure. Expliquez-nous, sur la même terre, on peut faire les deux ?
Oui, sur la même terre, on fait les deux. On passe d'abord faire les Collioure, le Collioure blanc en priorité, et après Collioure rouge. Et puis, 15 jours après ou 3 semaines après, on va cueillir le Banyuls. Le Banyuls qui aura finalement maturé, donc il sera plus concentré en sucre. Et dès le moment où il est à plus de 15 degrés, on peut le cueillir, il est à l'appellation Banyuls.
Et alors ça, c'est quand même un trésor, vous avez la chance d'avoir des Banyuls, ce sont des vins merveilleux qui ont un potentiel de vieillissement qui est assez énorme. Comment on fait pour élaborer du Banyuls ?
Comment on fait pour aller à Bedurie? Je suis peut-être assez
petit. On prend du raisin, après qu'est-ce qu'on en fait?
Alors on le presse, on le fait fermenter avec ou sans la peau, ça dépend quel type de bagnous on veut faire. Et puis après on fait un mutage à l'alcool vinique. Voilà.
On arrête la fermentation, ouais, quoi. Alors, les cépages qu'on peut trouver sur les crus Banyuls et Collioure, quels sont-ils? C'est les cépages classiques du sud, Laurent?
Oui, c'est les cépages classiques. Donc, c'est le Grenache au roi, hein, sur le terroir, parce que bon, nous, on n'a pas de terre. Donc, finalement, on a planté sur la roche dégradée. Et donc, Grenache, Syrah Mourvèdre pour les Collioure rouges. Et puis après, pour les Banyuls, c'est Grenache, pour les Collioure blancs, c'est Grenache blanc, Grenache gris, Vermentine, Roussanne et Marsanne.
Et alors, quel type de plat on peut associer à un bon Banyuls? Ou quel type de dessert ou de fromage peut-être?
Alors nous faisons un effort justement pour faire passer le Banyuls à table, parce que le Banyuls est considéré quand même comme un digestif ou un apéritif pour les grands-pères. Et là maintenant, nous faisons des Banyuls qui vont bien avec du saumon, avec du foie gras, avec tout type de plats.
Des fromages aussi, non?
Des fromages aussi, bien sûr, le rimage qui excelle.
C'est vraiment des produits magnifiques. Ouais. Alors, les paysages sont très très beaux, vous en parliez tout à l'heure, il y a des terrasses, elles regardent la mer, en tout cas beaucoup de vignes. Par contre, pour cultiver tout ça, c'est plus compliqué. Et pour vendanger, c'est des vendanges manuelles ou mécaniques?
Tout est manuel. Tout est manuel. Nous avons très très peu d'outils. On a juste le sécateur électrique finalement.
Et un petit donc consommateur de main d'œuvre et des gens valeureux qui veulent bosser, parce que c'est pas plat chez vous.
C'est des vaillants. C'est des vaillants. C'est des sculpteurs de montagne.
Le millésime 2019, Laurent Carreda, dites-nous, est-ce que ça va être comme chaque année chez les vignerons, le millésime du siècle?
Chez nous, on n'a pas de problème au niveau qualitatif. Nous, il fait toujours beau, on a toujours la qualité optimale. Le seul souci, c'est est-ce qu'on aura beaucoup de raisins ou pas beaucoup de raisins?
Oui, c'est les rendements qui sont importants chez
voilà,
vous.
Voilà. Cette année, petite récolte. Hein, sur le JICB, on a fait 13 000 hectares, alors qu'on d'habitude, on fait 15 000. Donc, on a 20% à peu près.
20%, quoi. Donc, qualitativement, c'est parfait. Quantitativement, il en manque un petit peu cette année.
Ouais.
Et alors, côté distribution, vous avez une seule marque, plusieurs marques, vous êtes organisé. Comment, Laurent?
Alors, côté distribution, nous avons un réseau historique sur la Terre des Templiers. Terre des Templiers, c'est des représentants...
Ça, c'est une marque, Terre des Templiers.
Exclusif, oui. Sous l'appellation JICB, groupement, nous avons deux marques. La Terre des Templiers, c'est des représentants qui font du porte-à-porte, qui vont chez les gens, qui valorisent nos produits. Donc, Terre des Templiers. Et après, chez les cavistes, chez les professionnels, nous avons la Bérousse.
Et les enjeux du développement durable, ils concernent également une région, un béni des dieux comme celle de Banyuls, qui, on va dire, est quasiment bio naturellement. Grâce à quoi? Grâce à la tramontane, grâce au vent?
C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Nous avons très très peu d'entrants. Nous avons traité deux fois cette année, voire peut-être trois. Soufre et bouillie bordelaise. Donc,
naturellement, la nature vous aide à ce niveau-là en tout cas, quoi.
On se bat, on essaye d'avoir la certification HVE. Donc ouais. Ça sera un premier pas. Après... voilà, chacun fait des efforts de manière particulière, de façon particulière ou
en fonction de sa philosophie, si on a envie de travailler aussi les choses. Quoi. La partie distribution, est-ce que vous vendez un petit peu vos vins en Collioure ou alors en Banyuls hors de nos frontières? Alors pour l'instant, vous avez une résonance qui est plutôt franco-française.
Alors nous étendons, on essaye de conquérir des marchés, on n'a pas encore les épaules assez larges, donc on s'est appuyé sur un négociant et puis un éleveur de la plaine du Roussillon qui s'appelle Jean-Marc Lafage et à qui
on les salue d'ailleurs.
Ouais, on a rétrocédé la marque à Bérousse à l'export.
À l'export. Merci beaucoup Laurent Carreda et bravo pour l'excellent travail que vous formulez auprès du GICB. Une vidéo sur la radio. On retrouve maintenant David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler des coteaux du Lyonnais. Nous sommes dans le Beaujolais, David, non?
Bah, presque. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas simplement une extension du Beaujolais? Je vais tâcher d'y répondre par le style et les types des vins. Et un peu comme par la nature du terrain. Alors, on sait très bien que le Beaujolais se termine juste au nord de Lyon et qu'au sud de Lyon démarrent les Côtes-du-Rhône septentrionales avec Côte-Rôtie et Condrieu et toute la suite. Ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a un vignoble qui fait la jonction entre les deux par l'ouest, complètement entourant la ville de Lyon, et cette appellation, parce que c'en est une, s'appelle Coteau du Lyonnais. Alors, je suis allé il y a très peu de temps, pendant une journée, pour goûter les vins, pour visiter un peu la région. C'est une appellation assez paradoxal dans le sens où il joint les Côtes-du-Rhône, mais en réalité, il est plutôt une extension du Beaujolais.
Et en cépage, David, on est plutôt Syrah ou Gamay ?
Non, ben justement, on est presque entièrement en Gamay. Alors, on fait des blancs avec le Chardonnay, donc c'est vraiment une extension de la Bourgogne par le sud. Gamay, les trois Gamay d'ailleurs, parce que même si le dominant, c'est le Gamay noir à jus blanc, on peut y assembler les deux Gamay, deux des Gamay teinturés, le Gamay de Bouze, c'est pas très sexy de demander un verre de Bouze, et le Gamay Chaudenay, qui sont deux Gamay dont la chair est colorée.
D'accord.
Donc ça donne plus de couleur. Donc ça, c'est en cépage accessite. En blanc, c'est Chardonnay et ou Aligoté, et un tout petit peu, pas plus de 10% de Pinot Blanc. Donc c'est vraiment une extension du Beaujolais. Les terrains aussi, d'ailleurs, sur le plan des sols, c'est à majorité granitique, hein, donc c'est encore une fois une extension un peu du Beaujolais. Et sur le plan de la topographie, pareil, parce que ça joint, c'est vraiment contigu aux Pierres Dorées, la partie nord de l'appellation.
Alors pourquoi est-ce qu'on appelle pas Beaujolais, tout simplement ?
Je ne sais pas. C'est au moment où le découpage a été fait et on n'a pas voulu l'étendre. Je ne rentre pas dans les détails des discussions politiques locales. Ce qui est quand même assez dramatique pour cette appellation qui quand même comporte théoriquement 4000 hectares, mais il n'y a que 250 exploités aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que ça a été bouffé, le terme est exact, par la banlieue lyonnaise vers l'ouest. Donc toute la périphérie lyonnaise a grignoté toute la partie centrale parce que l'appellation est assez large. Il contourne Léon, il est à la fois au nord et à l'ouest et au sud. Il rejoint Givors, donc on est presque à Côte-Rôtie dans le sud. Et sur ces collines qui sont assez jolies, on voit une espèce de mitage urbain, périurbain, qui est assez dramatique, je trouve. Sur des 250 hectares, il ne subsiste que 17 propriétaires indépendants. Il y a quelques négociants du Beaujolais notamment et un du Côte-du-Rhône qui sont actifs. Et puis un cave coopératif qui vinifie la moitié. J'ai goûté à peu près presque tous les 17. J'ai goûté 15 propriétaires différents, leurs vins. Dans les négociants, il faut quand même signaler quelqu'un qui est aujourd'hui le président de l'appellation, qui est Guillaume Cluzel, de la famille Cluzel-Roch, célèbre propriétaire de Condrieu et de Côte-Rôtie.
Oui.
Donc lui, il a osé acheter, et il achète aussi des raisins, parce qu'il n'a pas beaucoup de vignobles, d'autant plus qu'il a été gelé 3 fois de suite. J'ai goûté de très jolis vins, vraiment élégants. Les prix, vous en doutez Alain, ne sont pas excessifs.
Combien ça coûte à peu près ?
On va de 6 euros à 12, 13 euros.
Sympa, donc, vous faites plaisir pour un prix raisonnable.
Il y a quelques cuvées élevées qui escaladent jusqu'à 18 euros la bouteille, mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est des vins très accessibles et en dehors de l'appellation elle-même, puisque c'est limité aux cépages que j'ai déjà nommés, il y a pas mal de gens qui expérimentent avec d'autres cépages. J'ai goûté un Gewürztraminer, j'ai goûté un Rivionier qui ne va pas
très loin.
C'est assez logique. Alors pour cela, ils adoptent l'appellation vin de France, enfin la désignation vin de France.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas d'appellation vin de pays dans la région.
D'accord, bon, après tout, faut savoir.
Pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui dans vin de France, on a le droit de mettre et le millésime et le cépage, donc ça ne mange pas de pain. J'ai goûté de très jolis vins. Je vais peut-être nommer quelques producteurs.
Bien sûr, David.
Qui sont intéressants pour moi. Le domaine de Morillon, c'est assez joli parce que Morillon, c'est un ancien nom pour le Pinot Noir. Or, il n'y a pas de Pinot Noir là, enfin, il n'y a plus. Et ça, c'était un blanc. Domaine de Petit Fromentin, Probus Mondor, joli nom. Et ça, c'est fait comme d'autres vins que j'ai goûtés d'une famille très intéressante qui s'appelle Decrenis, qui étaient maraîchers au début, qui aujourd'hui font des fruits, des légumes, et qui ont créé un conservatoire du cépage Gamay où il y a plus de 1000 variantes du Gamay.
Ah oui.
Extraordinaire. En association
c'est le Casanova
avec
du vin, lui aussi, non ?
Non, parce que...
C'est pas lui, mince.
Non, mais on trouve que le Gamay est un très ancien cépage, et c'est le Casanova de la vigne qui est un de ses parents, le Gouet.
Le Gouet,
qui est aussi parent.
Sacré Gouet.
Oui, qui a fait plein d'autres cépages, dont le Chardonnay. Condamine Bernard, c'est une nouvelle association entre deux producteurs. Régis Descôtes, qui est un ancien président de l'appellation, qui fait un très joli rouge et blanc. Et puis la maison Cluzel-Roch, que j'ai déjà citée. Donc ça, c'est des vins très fiables, et vous les trouvez entre 6 et 12 euros.
Oui, donc c'est vraiment très...
Et c'est délicieux. Alors il faut savoir que la plupart des vins sont quand même absorbés par la ville de Lyon.
Hein. Oui, c'est ça. Ça se consomme localement, tout ça.
Très
là,
localement.
Dans le Vieux-Lyon, notamment.
Il y a peu d'exportations, même vers Paris.
Merci beaucoup, David Kobold. Merci également à vous, Florence Corbalan, Philippe Forbrach et Laurent Barreda. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise, pour une nouvelle émission. Nous serons toujours délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons Dominique Forger du château Coins à Pézac-Léognan. Nous parlerons Alsace Pinot Gris. Nous verrons ce que veut dire élever un vin. C'est important. On va découvrir un excellent livre pour Noël. Il ne faut pas l'oublier. Édité chez Hachette. 101 vins culte. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande modération. Salut, à demain.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.